Donc on va passer de l'histoire longue du traitement social des adolescentes à la situation présente avec l'intervention de Jean-Sébastien Adeliman, qui est maître de conférence en sociologie au CERIES à l'Université de Lille 3, qui a notamment travaillé sur le handicap psychique et sa prise en charge par les familles, et plus récemment sur les enfants agités. Et il va nous parler aujourd'hui d'une enquête en cours sur les maisons des adolescents. Donc on va essayer de tenir à peu près le même temps, peut-être même, voilà, si on peut, une vingtaine de minutes, comme ça on laissera un petit peu de temps pour les questions de la salle.
Merci beaucoup. Alors effectivement, je vais essayer de vous présenter un peu rapidement ce qui n'est plus une enquête en cours, en fait, c'est une enquête terminée, puisque maintenant je suis sur un autre programme de recherche autour de l'agitation des enfants. Donc effectivement, c'est ce que je vais vous présenter là. C'est quelques-uns des résultats d'une recherche qu'on avait menée dans le cadre d'une recherche collective sur les économies morales. Et le terrain dont je vais vous parler, il a été mené par Isabelle Coutan et moi-même dans une maison des adolescents. Alors, vous allez voir que je vais partir un peu de ce terrain pour faire des réflexions, des hypothèses un petit peu plus générales pour qu'on puisse ouvrir la discussion. Dans la recherche collective, il y avait deux populations qui étaient particulièrement ciblées, les jeunes d'origine populaire et les étrangers. Nous, on avait choisi de travailler sur la psychiatrie et les jeunes de milieu populaire. Donc on s'est dirigé vers une maison des adolescents dans une banlieue parisienne difficile. Alors les maisons des adolescents, vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est. Ce sont des structures relativement récentes qui ont été créées, a priori, il devait y en avoir une par département, ils n'ont pas tout à fait réussi à faire ça, ça a pris des formes très différentes selon les départements. L'idée un peu générale, c'était que par rapport aux institutions psychiatriques pour lesquelles il y avait à la fois une image qui faisait peur et d'autre part de longues files d'attente, on voulait créer des lieux plus ouverts, moins insérés dans l'hôpital, qui permettrait aux adolescents de venir faire part de tout leur malaise et qui permettrait aussi aux autres institutions qui seraient en difficulté avec des adolescents, notamment l'école, de s'appuyer sur ces professionnels, sur des équipes pluridisciplinaires avec des professionnels de la psychiatrie, du travail social, des infirmiers, pour apaiser les situations et voir s'il fallait ensuite orienter vraiment vers le secteur psychiatrique ou non. Alors comme je le disais, hein, selon les départements, on a des configurations très très différentes. Nous, la maison des adolescents sur laquelle on a enquêté, elle avait assez modérément pris ses distances avec l'hôpital, puisque ses locaux étaient situés dans un hôpital, d'une part, et qu'elle était dirigée par un médecin psychiatre. Donc bon, voilà, ça fonctionnait quand même différemment d'un CMP ou d'un service vraiment interne à un hôpital, mais en même temps, la distinction était difficile à faire, notamment pour les familles qui la fréquentaient. Dans cette maison des adolescents, donc on a mené l'enquête à deux, on a essayé d'utiliser des méthodes variées. On a pu observer des consultations, pas n'importe lesquelles, ils ne souhaitaient pas qu'on observe les consultations notamment d'accueil où l'adolescent ou l'adolescente et éventuellement un accompagnateur était accueilli par une ou deux personnes, mais ça ne les dérangeait pas qu'on assiste aux consultations familiales parce qu'il y avait un grand nombre de soignants qui étaient présents et finalement, à tour de rôle, on s'est un peu fondu dans l'équipe, on faisait partie de l'équipe soignante sans que notre rôle soit très bien précisé. Donc on nous avait juste demandé de ne pas prendre de notes pendant les consultations, simplement d'écouter, on pouvait poser des questions, réagir. Ces consultations familiales avaient une autre particularité, c'est qu'elles étaient affichées comme des consultations transculturelles, donc dédiées à des familles migrantes dans lesquelles on pensait que la migration avait un rôle important, hein, autour des troubles potentiels de l'adolescent. On a, à partir de ces consultations, mais pas seulement, cherché à avoir d'autres matériaux, d'autres points de vue. Donc on est allé faire des entretiens avec les familles qui étaient reçues dans le service, surtout les familles qui étaient reçues dans cette consultation, mais pas seulement. On a demandé, insisté pour que ces entretiens se fassent non pas dans l'institution, mais au domicile. Alors, C'était de toute façon très compliqué. On avait beau le dire et le répéter que nous, on ne faisait pas partie de l'équipe. C'était compliqué à comprendre. Mais voilà, déjà, le fait que ça se passe à domicile, ça a aidé un peu dans ce sens-là. Et selon les cas, on a essayé de faire soit un, soit plusieurs entretiens. Parfois en incluant l'adolescent quand il voulait bien se prêter au jeu de l'entretien. On a par ailleurs aussi fait des entretiens avec les professionnels de la structure, avec un assez grand nombre de professionnels, pour comprendre un peu quelles étaient leurs pratiques, comment eux y voyaient les cas. Et enfin, on nous a autorisé à consulter les dossiers et donc à avoir encore un autre point de vue sur les situations. Au bout du compte, ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'on avait sur un même cas l'histoire racontée de plein de manières différentes, par l'adolescent lui-même, ou alors par ses parents, par ce qu'on percevait à travers les consultations, ou par le dossier. Et très souvent, on était assez surpris, par exemple, quand on consultait un dossier et qu'après on allait faire l'entretien, on n'avait pas du tout la même image de la situation et du cas, donc on a essayé de travailler aussi un peu sur ces décalages. Ce que je vais vous raconter, c'est un peu un mélange de trois publications qu'on a tirées de cette recherche. Un dans la revue Ethnographica, un dans le British Journal of Sociology, et puis un qui est un chapitre du livre collectif qui a été publié au terme de la recherche collective sur les économies morales. Donc je pense que les diapos pourront être à votre disposition, j'imagine, donc vous pourrez récupérer les références si ça vous intéresse. Je vais rapidement passer en revue trois points. Un premier point pour présenter un peu le cadre de ces maisons des adolescents et ce qu'on a pu y observer. Un deuxième point plus particulièrement sur le travail qui est fait dans ces maisons et qui repose beaucoup sur un travail sur la parole, ce que Isabelle Coutan notamment a appelé aussi par ailleurs une pédagogie de la réflexivité. Et puis on en viendra à des réflexions sur des différences entre des dispositions plutôt féminines et des dispositions plutôt masculines. Vous verrez, je prendrai deux cas pour essayer de réfléchir un peu à la question du genre dans toutes ces questions. Donc, premier point, les maisons des adolescents, ben, c'est des nouvelles institutions qui sont assez compliquées à saisir, qui, si on veut le dire rapidement, sont des institutions qui ont été créées avec relativement peu de moyens. On essaye de mettre en réseau des professionnels. Il y a certains départements où on n'a pas pu avoir de locaux, où donc on a vraiment uniquement un réseau de professionnels, un standard téléphonique et puis des réunions entre les professionnels pour parler de différents cas. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le cas pour la maison qu'on a étudiée, qui avait plus de moyens parce qu'elle dépendait étroitement d'un hôpital. C'est des institutions qu'on a pensées aussi, comme je dis tout à l'heure, à la fois à destination des adolescents eux-mêmes, mais aussi, et au moins autant, à destination des autres institutions qui ne savent plus quoi faire avec des adolescents difficiles. Et la première de ces institutions, c'est l'école, qui, de fait, est la grande pourvoyeuse des adolescents qui vont dans ces maisons. Puisque quand on regarde un peu les textes, on se dit, voilà, c'est des lieux qui sont ouverts, où les adolescents peuvent venir d'eux-mêmes. Nous, ce qu'on a observé, c'est que c'était extrêmement rare et que presque toujours, c'est l'école qui dit à la famille, là, c'est plus possible, si vous ne faites rien, il va être exclu. Donc, prenez contact avec ce service, allez-y, etc. Donc, il y a un contrat très ambigu entre les familles qui viennent et la maison des adolescents, puisqu'elles n'ont aucune obligation à venir dans ces structures, aucune obligation à continuer les soins. Et en même temps, il y a une forte pression. Il y a très souvent l'idée que si elles arrêtent de venir ou si elles refusent de venir, il va y avoir des sanctions du côté de l'école, notamment en termes d'exclusion. Donc, de fait, hein, on voyait ça dans les entretiens, ils se sentaient très souvent obligés de venir et voyaient ça comme une contrainte beaucoup plus que comme un lieu de ressource. Mais comme on le verra tout à l'heure, pas dans tous les cas non plus. Je voulais insister au niveau du contexte sur un peu le durcissement bien connu hein, des politiques autour des déviances juvéniles, des déviances autour de l'adolescence. On a parlé dans la présentation juste avant moi de l'ordonnance de 45 qui essayait d'associer très étroitement le contrôle et la prévention autour de la délinquance, notamment de la délinquance juvénile, dans les dernières décennies, on a un certain nombre de réformes, de lois qui ont eu tendance, au contraire, à essayer de séparer le champ d'un côté de la protection et de l'autre le champ de la répression. Dans ces maisons des adolescents, on a un petit aperçu en fait, de différents profils. Et là aussi, ça fait écho très fortement avec la présentation précédente. Ben, globalement, même si ce n'est pas le cas tout à fait systématiquement, mais globalement, on a beaucoup des jeunes filles, des adolescentes qui viennent avec des problèmes de tentatives de suicide, d'angoisse, de crises d'angoisse multiples, de mal-être comme ça sous différentes formes, et des garçons qui très majoritairement sont là pour des troubles du comportement qui éclatent dans l'univers scolaire et avec là une très forte demande de l'école. Donc, pour les filles aussi, on peut avoir des demandes de l'école hein, en disant que c'est des situations compliquées que les écoles ont du mal à traiter, mais on a quand même ces deux figures assez différentes qui ressortent très rapidement hein, quand on suit un peu les consultations et quand on regarde les dossiers. On a par ailleurs, hein, parce que c'est une maison des adolescents qui est implantée dans une banlieue difficile, un très grand nombre de familles migrantes qui vont venir dans cette maison des adolescents aussi avec des différentes formes d'incompréhension par rapport à ce qui leur est renvoyé, notamment du côté de l'école, avec l'idée qu'il y a des formes d'injustice, des formes de discrimination, que leurs enfants ne sont pas traités de manière égale par rapport aux autres. Et donc, on a des parents qui arrivent dans la maison des adolescents souvent très remontés, avec un mélange comme ça de honte par rapport aux enfants et de colère. Et comme on va le voir, l'une des missions principales que se donnent les professionnels de la structure, ça va être bah, de gérer ces émotions, d'apaiser les choses, de voir si finalement, par la parole, avec des approches mêlées, mais quand même très inspirées de la psychanalyse, on ne pourrait pas apaiser les choses, au moins momentanément, faire en sorte que déjà des problèmes se règlent dans les familles, que peut-être du coup, ça réglera des problèmes aussi dans les institutions, et notamment à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette institution? Ben, on parle beaucoup, on amène les gens à parler, avec l'idée hein, exprimée de façon très explicite, notamment par le psychiatre qui dirige la structure, qu'on est très souvent face à des familles où on ne parle pas assez, on ne dit pas assez les choses, on ne sait pas exprimer ses sentiments, ses émotions. Il y a des éléments de l'histoire familiale qui ne sont pas transmis aux enfants et ça peut créer des problèmes. Donc, on veut faire parler. Donc, je vous ai mis quelques citations du psychiatre qui dirige la structure, hein, qui, devant les personnes, insiste pour expliquer, pour prendre plein de métaphores, plein d'images, pour leur dire il faut parler de vos émotions, il faut les faire ressortir, on est aussi là pour ça, on est là pour vous écouter. Et un des credos aussi du responsable de la structure, c'est de dire que... on reçoit des adolescents, mais très souvent des adolescents et leurs familles. Et finalement, quand les adolescents viennent seuls, la première question qui va se poser, ça va être de petit à petit, peut-être au fil de quelques consultations d'accueil, faire en sorte que l'adolescent accepte que finalement, on fasse venir aussi la famille, les parents. Et une fois que les parents sont là, on va essayer dans beaucoup de cas de, comme ils le disent eux-mêmes, déplacer le stigmate, c'est-à-dire... alléger un peu l'adolescent qui déjà a sur le dos ses enseignants par exemple et plutôt déplacer la focale vers les parents. Donc c'est très souvent comme ça qu'ils présentent le fait de proposer la consultation familiale aux parents en disant voilà, on va les amener vers une consultation plus familiale, on va moins mettre le projecteur sur l'enfant, on va moins lui demander de se justifier, mais on va lui demander d'écouter ce que ses parents ont à dire et on va faire raconter aux parents l'histoire familiale en insistant sur le processus migratoire, notamment avec l'idée que c'est sûrement, dans les cas où on pense que la consultation transculturelle serait adaptée, on pense qu'il y a des choses dans l'histoire familiale qui devraient être dites et qui pourraient permettre d'apaiser la situation. Il y a l'idée aussi hein, que, une idée très, très classique dans les approches psychanalytiques que mettre en mots, dire les émotions, les affects, c'est un moyen de différer ce que les spécialistes du psychisme appellent les passages à l'acte, c'est-à-dire qui peuvent être des mouvements brutaux, qui peuvent être des décisions un peu trop rapides, comme vous allez le voir dans un cas que je vais développer, le fait de, par exemple, menacer les enfants de les renvoyer au pays, qui est quelque chose qui revient très souvent dans les consultations. Voilà, s'il n'arrête pas de faire des bêtises, si ça continue, on va le renvoyer dans le pays d'origine, et là, il va comprendre ce que c'est qu'avoir une vie difficile, etc. Donc, il y a beaucoup de négociations autour de ça. Alors, je vous donne un premier exemple, donc c'est anonymisé, évidemment, le cas de Hamidou Touré, qui a été orienté vers cette maison des adolescents par l'assistante sociale de son collège, donc un cas classique, comme je vous le disais, où il y a des troubles du comportement, où ça ne se passe pas bien à l'école. Donc, Hamidou, il est le seul garçon d'une fratrie de 7 enfants. Il vit dans des conditions très modestes, avec un père qui a travaillé pendant longtemps, mais qui est au chômage depuis plusieurs années. Et il y a une très forte tension avec l'école. Et là, le père trouve qu'il est très maltraité lui aussi par l'école. Il le dit hein, dans les consultations, il arrive assez méfiant hein, à la maison des adolescents. Il dit, voilà, j'ai été reçu à l'école, c'était comme au tribunal, il crachait sur moi. Mais en même temps, il dit, voilà, ça va pas du tout, la manière dont ça se passe, ça peut pas continuer comme ça. Et il y a cette menace d'un envoi de son fils en Guinée si ça ne s'apaise pas. Et il y a une des phrases qui nous a marqué, qu'on a retenu et qu'on a essayé de mieux comprendre, où il nous dit « Aujourd'hui, à l'aube du millénaire, avoir des garçons en France, c'est l'enfer. » Voilà, avec mes filles, il n'y a pas de problème, j'ai 6 filles, ça marche bien à l'école, j'ai un garçon. Et alors, il explique aussi dans les consultations que voilà, ce garçon, il portait beaucoup de choses aussi, beaucoup d'ambition sociale du père, qui dans son pays avait une position sociale beaucoup plus valorisée que celle qu'il a en France. Et avec lui, ça ne marche pas du tout, c'est l'enfer. Il a peur de la délinquance et que son fils prenne le mauvais chemin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les consultations ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le psychiatre, il essaye de faire parler le père. Donc, il insiste pour dire « Oui, je sens que vous êtes en colère, mais qu'est-ce que ça fait la colère, à votre avis ? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la colère laisse sa place à autre chose ?» Bon, voilà, les consultations durent assez longtemps sur ce thème-là. Et finalement, au bout de quelques consultations, le thérapeute principal est très content parce que le père renonce momentanément à son projet d'envoyer son fils en Guinée. Et il nous parle lui-même de ce cas en disant « c'est très intéressant, vous devriez enquêter davantage, aller voir le père ». Donc voilà, c'est ce qu'on a proposé et c'est ce qu'il a accepté. Donc on a fait un entretien à domicile. Où le père nous raconte toute l'ambivalence qu'il a par rapport à la structure en disant « voilà ». J'étais assez content en repartant d'un côté parce que enfin je me suis senti écouté, je me suis senti compris, on m'a pas jugé, c'était pas comme à l'école. Mais en même temps, après coup, je me suis dit est-ce que je me suis pas un peu fait avoir en fait, parce que moi je leur ai livré plein de choses, je leur ai raconté toute ma vie et finalement eux, qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? Ben pas grand-chose, c'est-à-dire à part moi avoir écouté, ils m'ont pas dit grand-chose et moi ce que j'aurais voulu c'est que ils renforcent mon message auprès de mon fils, qu'ils lui disent qu'il faudrait vraiment qu'il arrête de faire ses bêtises, donc voilà, qu'ils se mettent sur un mode éducatif et ça ils l'ont pas fait. Alors ce qu'on a noté, hein, c'est ce que je vous mets à la fin de la diapo, c'est que le passage par la maison des ados, ça a eu une conséquence assez visible, assez forte. Et ça aussi, le psychiatre référent en était content. C'est que les termes que le père utilisait pour parler de son fils ont beaucoup changé. Et il se mettait à employer, effectivement, y compris dans l'entretien à domicile, des catégories psychologiques comme la crise d'adolescence, où il employait des mots comme « mon fils n'est pas un délinquant, c'est un trublion ». C'est-à-dire, voilà, il fait des bêtises, mais c'est peut-être pas si ancré que ça, il y a peut-être encore quelque chose à faire. Donc, voilà, il y a un changement de regard et une espèce de normalisation de la situation avec les mots de la maison des adolescents. J'accélère un peu pour ne pas prendre trop de temps. Donc, dernière partie, on va essayer de comparer ce cas avec d'autres qui sont très contrastés, et notamment le cas de certaines adolescentes qu'on a pu aussi étudier à la maison d'adolescents. Donc, en gardant en tête cette expression, hein, pourquoi est-ce que c'est l'enfer spécifiquement d'avoir, pourquoi est-ce que ce serait l'enfer d'avoir des garçons. Alors, de fait, hein, là encore, c'est pas systématique, mais on a repéré pas mal de situations assez violentes où le passage par la maison des adolescents fonctionnait mal avec des garçons. Par exemple, quand on proposait l'entretien sociologique, ben, on a eu des réactions assez révélatrices, comme l'un d'entre eux qui nous dit « Non, pas question, moi je veux pas, parce que moi je suis pas fou, donc de toute façon j'ai rien à faire ici », et donc un rejet assez frontal de la structure, et donc un échec du projet de la maison des adolescents de se distancier du stigmate lié à la psychiatrie. Un autre cas où, pendant une consultation, lorsque le psychiatre interroge la mère et commence à lui demander de lui parler un peu de ses rêves, tout d'un coup, le fils se lève, s'emporte et lui dit « Mais qu'est-ce que vous lui posez comme question? C'est n'importe quoi !» Et voilà, il pique une crise, il claque la porte, il s'en va. Donc voilà, des rapports très compliqués au dispositif aussi lui-même. Et puis d'un autre côté, quelques cas uniquement d'adolescentes où on a un investissement très très fort du dispositif et un investissement qui nous a semblé intéressant parce qu'il était autant sur un plan psychique que sur un plan social. Alors je vous montre un dernier cas avant de conclure, le cas de Jennifer Sanoun, donc plus âgée nettement que dans le cas précédent, 18 ans, qui est née en France de parents kabyles, qui a quatre frères et sœurs qui, eux, étaient nés en Algérie. Elle, c'est la dernière, elle est née en France. Elle se vit comme très différente de ses frères et sœurs. La situation sociale est à peu près la même, hein, une situation sociale difficile, des conditions de logement difficiles, des parents le père qui est au chômage, la mère qui ne travaille pas, et cette fois-ci des consultations liées à des crises d'angoisse assez fortes, pas liées à des difficultés scolaires, hein, au contraire, Jennifer a fait une très bonne scolarité par rapport à ses frères et sœurs, elle obtient son baccalauréat, elle vient de l'obtenir là au moment où on la voit en consultation. Et les parents, eux, n'accrochent pas du tout à la consultation. Rapidement, ils ne viennent plus. Mais elle continue à venir et elle accepte tout ce qu'on lui propose. Et donc, pour elle, on propose un suivi individuel. Et la lecture des professionnels de la maison d'adolescence, c'est que cette jeune fille, elle a beaucoup de mal à partir de chez elle parce que ses parents, en fait, s'entendent très, très mal. Ils sont de fait séparés, mais ils vivent toujours ensemble. Et ils pensent que la jeune fille, ses troubles, c'est aussi pour continuer à scinder le couple parental. Voilà, une lecture comme ça. Alors nous, on en a fait une lecture avec nos outils, plus sociologiques, en se disant que ce qu'elle trouve à la maison des adolescents, et c'est ce qu'elle nous dit aussi en entretien, parce qu'on a fait un entretien directement avec elle, c'est des ressources pour effectivement pouvoir rompre avec son milieu familial, mais notamment sur un plan social. C'est-à-dire que petit à petit, dans l'entretien, elle nous explique qu'elle aimerait bien, elle a postulé pour une université parisienne, mais qu'à ce moment-là, ça serait compliqué de rester chez elle. Mais effectivement, elle ne sait pas trop comment ses parents vont prendre la chose. Elle a son petit ami qui, lui, est déjà étudiant dans une grande université parisienne qui est en sociologie, qu'elle a confié à l'entretien parce qu'il voulait voir un peu comment ça se passait. Lui, il est en première année de sociologie, il se dit « Ah bah super, je vais aller voir un peu comment ça se passe », donc il est là aussi. Et puis là encore, il y a une phrase qu'on a retenue qui nous a un peu surpris, qui nous a intéressé, où elle nous dit « Pour moi, aller chez un psychologue, c'était plus simple que d'aller voir une assistante sociale ». Et lui, il renchérit en disant « Bah oui, c'est vrai, d'ailleurs, il y a des grands patrons qui vont voir des psychologues, c'est pas infamant d'aller voir des psychologues, alors que les assistantes sociales, alors là, pour le coup, c'est que les milieux les plus défavorisés ». Et donc, il y a plein d'autres choses dans l'entretien qui montrent que pour elle, la maison d'adolescence, c'est une ressource, c'est une marche un peu, à gravir vers une ascension sociale et qu'elle apprend plein de choses qui vont lui servir. Et le maniement du langage, parler de soi, parler de ses affects, la pédagogie de la réflexivité, hein, comme dit Isabelle Coutant, ça lui sert. Et elle nous explique qu'elle arrive à mieux gérer ses crises, que ça lui sert aussi pour être plus calme, pour passer son permis de conduire, que finalement, pour ses examens aussi, elle a appris un autre maniement du langage, elle a appris à se contrôler. Et donc, c'est très, très pris dans une forme d'ascension sociale. Donc pour conclure sur tout ça, quelques hypothèses un peu plus générales, là j'ai pas eu le temps de vous présenter tout le matériau sur lequel ça repose, c'est de dire que la manière de gérer ces difficultés, de gérer les déviances adolescentes dans cette structure, ça fait écho à des transformations beaucoup plus générales. Hein, pardon. à des transformations beaucoup plus générales du traitement, du suivi de ces populations. Et ça renvoie, encore une fois, à ce découplage entre, d'un côté, des politiques de prévention, toutes ces politiques d'écoute, politiques un peu de l'intime, où on fait parler, où on fait exprimer les affects, et de l'autre côté, des politiques répressives. Et il nous semble que, globalement, ces politiques de l'écoute et de l'intime, elles sont plus en phase avec des dispositions plutôt féminines qui vont beaucoup plus être facilement assumées, là, par exemple, par des adolescentes, l'idée de voilà, exprimer, y compris dans des classes populaires, hein, dès que, notamment, on est dans un processus un peu d'ascension sociale, accepter de parler de soi, de parler de ses émotions, de faire un travail sur la maîtrise de soi, le calme, et que c'est beaucoup plus dur pour des garçons de classes populaires qui peuvent voir ce genre de pratique comme des choses un peu inutiles, comme trop s'écouter, trop faire attention à soi, qui sont beaucoup plus difficiles à agencer avec d'autres dispositions plus classiques dans ces milieux-là. Donc, encore une fois, ce découplage entre politique de l'écoute et politique répressive, hein, si on caricature un peu, il nous semble que ça renvoie plus ou moins à des différences de genre aussi, et que donc on a une difficulté particulière pour le coup pour les garçons des classes populaires, une fois qu'ils sont dans cet engrenage d'affrontement avec la famille, avec l'école, ils ont beaucoup de mal à saisir de genre de dispositif. Pour les filles, c'est plus complexe. Il y a des filles qui peuvent être dans une situation où elles vont pouvoir vraiment tirer profit de ces structures-là, pas exactement comme veut le faire la structure, mais dans une autre logique qui mêle des questions psychiques et des questions sociales. Voilà, je m'arrête, j'ai un petit peu dépassé déjà.